Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Margot Le Ridon, mais aussi Hélène Lefrançois, Bertille Bourdon et Rosalie Suc. Réalisée par Benjamin Hu. Et mise en onde ce matin par Jérémy Kaufmann. Deuxième temps de notre série consacrée à la paix, faire taire les armes, c'est le titre de notre série cette semaine. Après nous être intéressés hier au plan de paix de Donald Trump pour le Proche-Orient, avant d'aborder demain la situation dans le Donbass, et puis jeudi la violation des embargos sur les armes, notamment du côté de la Libye et du Yémen, intéressons-nous aujourd'hui à l'Afrique et aux nombreux conflits qui minent encore le continent. Peace building en Afrique, peut-on acheter la paix? C'est la question qu'on va se poser ce matin.
L'UIA a décidé il y a quelques années que 2020 devait être l'année du silence et des armes à feu. Maintenant, un certain nombre de conflits sont toujours en cours sur le continent et nous allons travailler avec tous les pays pour voir comment nous pouvons apporter la paix au mieux dans de nombreuses parties de ce continent.
C'est aussi un signal fort à envoyer en dehors du continent africain. À cause de ceux qui apportent toujours plus d'armement sur notre continent et essayent de militariser l'Afrique.
Les dirigeants africains ont compris que très peu de leurs projets pourraient être réalisés s'ils ne parvenaient pas à faire taire les armes.
They don't succeed in silencing the guns.
On est d'abord Cyril Ramaphosa, le nouveau président de l'Union africaine. On entendait également un diplomate algérien et aussi un autre fonctionnaire, haut fonctionnaire algérien, membre évidemment de cette Union africaine. Le 33e sommet de l'Union africaine s'est tenu ces deux derniers jours à Addis Abeba autour d'un ambitieux programme, faire taire les armes en 2020. Pour y parvenir, l'organisme annonce vouloir travailler sur les causes de la violence en favorisant le développement. Mais qu'y a-t-il derrière ces discours? L'Union africaine a-t-elle vraiment l'ambition d'en faire plus sur le plan socio-économique, aux dépens peut-être du volet militaire? C'est en tout cas une question ancienne et ô combien importante. Faut-il d'abord garantir la sécurité pour permettre le développement ou d'abord engager le développement pour faire émerger la sécurité? De la République démocratique du Congo au Mali en passant par la Somalie, les deux options ont montré leurs limites respectives. Des milliards de dollars ont été consacrés à l'aide au développement et au peace building avec un succès mitigé. Alors qu'un pays comme le Rwanda a su dans les dernières années, les années qui ont suivi le génocide, allouer des fonds, des bailleurs internationaux à la mise en place d'institutions fortes et à la reconstruction du pays pour devenir en quelques années une puissance régionale d'envergure. D'autres, comme le Mali par exemple, ont été soutenus par des aides pendant des années sans que cela ne les empêche de sombrer dans la violence. Alors comment faire en sorte que l'argent des bailleurs internationaux serve réellement à reconstruire durablement les régions détruites et à réhabiliter les États faillis dans des contextes d'instabilité politique structurelle, de tensions communautaires récurrentes, de corruption endémique? L'argent est-il vraiment le seul nerf de la guerre? Pour évoquer ces questions, nous avons invité ce matin Serge Mikhaïlov, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur à l'IRIS, vous avez travaillé à la Banque mondiale, vous avez été directeur des opérations à l'AFD et puis vous êtes auteur notamment d'un livre intitulé Africanistan, qui était paru chez Fayard. J'ai dit une bêtise?
Non, pas du tout.
Ça vous fait sourire?
C'est le titre est toujours. fait buter la plupart des...
C'était un piège pour les journalistes. Oui. Thierry Vircoulon est également avec nous ce matin. Bonjour Thierry Vircoulon.
Bonjour
Florian
Delors.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes consultant indépendant, chercheur associé au Centre Afrique subsaharienne de l'IFRI. Alors peut-être d'abord un mot l'un et l'autre sur ce sommet l'Union africaine que je viens d'annoncer avec ce thème quand même très fort, faire taire les armes, avec ce sous-titre qu'il y a derrière, créer des conditions propices au développement de l'Afrique. C'est ça le sous-titre du thème. Qu'est-ce que ça vous inspire? On va commencer avec vous Serge Mikhaïlov. Et qu'est-ce que ça nous dit d'une éventuelle volonté peut-être nouvelle de remettre les questions de développement au cœur d'une arène qui est quand même, c'est vrai, ces derniers mois, voire ces dernières années, assez largement occupée, voire trop occupée par la question strictement militaire? Serge Mikhaïlov.
Alors je crois qu'il ne faut pas demander à l'aide au développement plus qu'elle ne peut donner. La plupart de ces conflits ont des causes qui sont en partie liées à la misère. Ça, l'aide au développement peut traiter ce type de problème. Mais la plupart du temps, les véritables problèmes sont des problèmes de nature politique ou des problèmes de type de gouvernance. Et là, si vous voulez, l'aide au développement est assez vite paralysée. On peut jeter autant d'argent qu'on veut à la tête de problèmes politiques, mais on ne va pas les résoudre pour autant. Donc il faut bien analyser à chaque fois les causes d'un conflit, et puis à partir de là, réfléchir à la façon dont on peut au mieux tenter de calmer ce conflit. Si on a une situation de gouvernance épouvantable, si l'on a un pays voisin qui ne vous aime pas particulièrement, je pense là à l'Afghanistan ou au Pakistan, eh bien, vous pouvez jeter autant d'argent que vous voulez à la tête des problèmes, ça ne résout rien. Je rappelle quand même que l'Afghanistan a perçu certaines années des montants d'aide internationale qui correspondaient au volume de son PIB, de son produit intérieur brut. Bon. Donc, c'est quelque chose de colossal et ça n'a rien réglé. Au contraire, ça a fini par faire partie du problème.
Thierry Vircoulon, même question, est-ce qu'il y a du côté de l'Union africaine le désir de remettre les questions de développement au cœur du débat, alors que c'est vrai, depuis des mois, pour pas dire des années, on va parler tout à l'heure de la question du Sahel, on ne pense finalement la résolution d'un certain nombre de conflits que par le truchement de solutions militaires, en tout cas beaucoup.
Oui, je pense que l'Union africaine se fait simplement l'écho de ce qu'on appelle depuis quelques années le nexus sécurité-développement, qui consiste à dire, comme vous venez de l'évoquer, qu'il n'y a pas de sécurité sans développement et vice-versa. Et donc, il faut faire les deux en même temps.
Qui pense ça?
Oh, c'est, on peut dire, la pensée commune chez les diplomates et chez les développeurs actuellement.
En Occident, pas de souci. En Afrique, on pense pareil?
Bon, c'est une idée qui s'est répandue aussi dans les élites africaines et donc je suis pas du tout surpris de voir l'Union africaine reprendre ce discours, qui est maintenant un discours très officiel qu'on tient aux Nations Unies et dans toutes les organisations multilatérales.
C'est seulement du discours ou il y a vraiment des actes derrière pendant le sommet? Le président, par exemple, sénégalais, Macky Sall, a annoncé qu'il allait mettre la main à la poche pour un fameux fonds pour la paix qui a été créé en 2018. Alors, moi, j'ai été étonné par une chose, c'est que 500 000 $ pour ce fonds pour la paix, on fait pas grand-chose avec 500 000 $. Alors, c'est quoi ce fonds pour la paix? Ça sert à quoi? Serge Michaelov.
C'est un geste, je pense, de Macky Sall, parce que je compare
mais 500 000
ça avec
dollars.
C'est bon, c'est rien du tout.
C'est ça, on
c'est
est d'accord.
Du tout. Les pays ont des PIB de 10, 12, 15 milliards de dollars, donc vous voyez, ça n'aura pas grand effet. Par contre, si vous voulez, les fonds IDA qui vont être consacrés au Sahel, sur les 4 ans à venir, vont être de l'ordre de 30 milliards de dollars. Donc vous voyez, IDA, c'est la branche qui est la plus avantageuse de la Banque mondiale pour les pays pauvres, les pays en difficulté. Donc vous voyez que l'ordre de rapport correspondant. Ceci dit, le Sénégal ne peut pas non plus mettre des montants exorbitants.
Thierry Vircoulon, est-ce que l'Union africaine, pardon, à une stratégie justement pour faire taire les armes. Ça fait longtemps qu'on a pour ambition de faire taire les armes. Il y avait eu déjà en 2013, je crois, un sommet où on avait dit on va mettre fin au conflit à l'horizon 2020. Force est de constater que c'est un échec. Mais est-ce qu'on avait une stratégie pour ça?
Il y a des stratégies qui sont élaborées à Addis Abeba, qui sont validées par les instances de l'Union africaine, etc. La question surtout, c'est est-ce que il y a premièrement une vraie volonté politique de mettre en œuvre ce qu'on dit, en règle générale assez peu, et deuxièmement, est-ce qu'il y a des moyens financiers pour le faire? On peut dire que l'Union africaine, qui est une organisation qui vit essentiellement du budget européen, du budget de l'Union européenne, a eu ces deux dernières décennies, des montants financiers considérables, notamment pour financer l'opération de maintien de la paix Amisom en Somalie, et que ce qu'il en ressort comme leçon, c'est qu'il y a eu beaucoup de problèmes de gestion de ces budgets qui viennent de l'Union européenne.
Serge Mikhaïlov, est-ce que précisément cette dépendance financière à l'Union européenne fait que peut-être du côté de l'Union africaine, on concède aux Européens cette vision de résolution des conflits par le truchement d'outils essentiellement sécuritaires, essentiellement militaires? Est-ce que d'une certaine manière, si l'Union africaine a du mal à engager véritablement une dynamique plus forte en termes de développement, c'est aussi parce que derrière, il y a la pression des Occidentaux, des Européens, qui veulent que la riposte soit essentiellement sur le plan militaire? On parlera tout à l'heure du Sahel. On a bien vu comment Emmanuel Macron a mis la pression sur ses partenaires du G5 Sahel pour que justement ils affirment davantage leur soutien à l'aide militaire de la France.
Disons que face à ces conflits, il y a une dimension militaire qu'on ne peut pas évacuer.
Évidemment.
D'autre part, si vous voulez, on essaie de rattraper en 2-3 ans par des volumes d'aide considérables, le fait qu'on a oublié certaines régions ou certaines populations pendant des décennies. On essaie de rattraper 40 ans d'oubli par des efforts massifs dans des conditions qui ne sont pas des conditions optimales. Parce que quand on commence à avoir de la sécurité, la supervision des opérations, le suivi même de la chaîne de dépenses devient très problématique. Bon. Alors derrière tout cela, l'Union européenne, je dirais, est pleine de bons sentiments et d'espoir, mais la façon dont ces ressources sont engagées ne témoigne pas forcément d'une analyse des problèmes correspondants et de sa capacité à attaquer les problèmes qui sont en cours.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui pose problème?
Disons que, si vous voulez, je disais tout à l'heure que derrière ces conflits, il y a des problèmes politiques d'abord. Alors, est-ce que l'Union européenne est la mieux placée pour traiter ces problèmes politiques? L'Union européenne, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut sortir de l'argent, des volumes considérables. Bon. Elle peut, je dirais, lui jeter à la tête des problèmes de pauvreté, des problèmes de misère. Mais ça, ce n'est qu'une petite partie de la problématique générale qui a provoqué le conflit. Tant qu'on n'a pas fait une analyse claire de l'origine du conflit, et tant qu'on ne cherche pas à le traiter par les moyens appropriés, alors si c'est un problème politique, ben, l'Union africaine a peut-être des possibilités d'intervention, après tout, de faire la médiation. Est-elle la mieux placée? C'est pas toujours le cas, mais elle a peut-être, en tout cas, elle a une légitimité à tenter de faire de la médiation. Mais je dirais que pour mettre de l'argent sur ces situations-là, bon, l'Union africaine peut faire pression sur l'Union européenne, mais l'Union européenne, ne pourra guère que mobiliser des ressources considérables, en espérant que, bon, il en restera quelque chose pour calmer le terreau. Dans les conflits, vous avez un terreau d'abord, hein, un terreau qui est propice au développement des conflits. Et ça, il est certain qu'un terreau marqué par une très grande misère, c'est un terreau qui est favorable à l'émergence des conflits. Mais vous avez aussi d'autres phénomènes qui déclenchent les conflits. Vous avez la petite torche qui s'est mise dans le baril de poudre. Alors ça, c'est souvent un problème politique ou bien simplement un événement qui est survenu au dernier moment. Donc il faut bien analyser ce point-là. Et ensuite, il faut veiller à ce que l'aide cible bien, je dirais, la racine de ces conflits. Si c'était à chaque fois un problème de grande misère, ce serait plus facile. Sauf qu'on arrive souvent très tard, dans un contexte qui est très dégradé.
Alors justement, si on regarde les solutions qu'on peut proposer pour s'attaquer, si je puis dire, Thierry Vercoulon, au terreau, on a beaucoup dit et répété ces derniers mois que l'intervention française au Sahel, force est de constater que c'est un échec. Non seulement on ne parvient pas à contenir les groupes armés, mais en plus ils se diffusent assez largement. Il y a des pays où aujourd'hui ils sont très présents, alors même qu'il y a encore quelques années on les voyait pas. Je pense par exemple au Burkina Faso. Dans cette région-là, il y a eu la mise en place de ce G5 Sahel, donc qui vise justement à répondre à ce défi sécuritaire. Mais l'une des particularités justement de cette entité, c'est qu'il y a aussi un volet développement économique. Est-ce que vous pouvez essayer de nous faire sentir en quelques mots, quelques exemples peut-être, ce qu'il y a justement derrière ce volet? Est-ce que c'est seulement de la communication ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? Et l'effet que ça peut avoir sur le terrain, Thierry Vercoulon?
En fait, pour revenir au début de la jeunesse du G5, et ça répond un peu à la question que vous posiez tout à l'heure sur qui est belliciste ou qui ne l'est pas entre les Européens et les Africains, initialement, c'était le G5 Sahel a été pensé comme une coopération militaire entre les cinq pays. Et puis, justement, à cause de la doctrine du nexus sécurité-développement, très rapidement, les Européens et d'autres bailleurs ont demandé à ce qu'il y ait un volet développement aussi.
Donc, c'est pour ça que sur le logo, il y a écrit sécurité et développement.
Voilà, exactement. Et donc, on a dit, ça sera l'exemple du nexus sécurité-développement opérationnalisé, mis en œuvre sur le terrain. Évidemment, ça a tout de suite posé une question qui est que du développement au Sahel, on en fait depuis 1960. Il y a des organisations qui ont été créées spécialement pour ça, des organisations régionales qui sont censées en faire. Et donc, tout de suite, il y a eu une sorte d'inquiétude de leur part sur la compétition pour l'accès à l'aide en disant si l'Union européenne finance le G5 pour sa partie développement, c'est ce que ça veut dire qu'elle ne nous financera plus. Il y a un certain nombre d'organisations en Afrique de l'Ouest, et vous voyez celles dont je parle. Donc ça rajoutait en fait un acteur de développement.
Vous parlez de laquelle ?
Du G5. Le G5 devenait un acteur de développement en théorie supplémentaire dans un paysage où il y avait déjà beaucoup d'acteurs de développement et où en fait il y avait des gros problèmes de coordination de l'aide internationale. Donc en fait ça ajoutait des problèmes à des problèmes. L'idée de dire que le G5 fasse aussi du développement. Et finalement les actions de développement, c'est, alors je ne sais pas le détail, mais c'est une portion très congrue. Et de toute façon le G5, ça aussi on s'en est rendu compte maintenant avec ce qui se passe sur le terrain, est purement chimérique. Il est chimérique en termes de coopération militaire, parce que la coopération militaire entre ces cinq pays ne fonctionne pas, tout simplement parce qu'il y en a trois qui n'ont pas d'armée, donc évidemment ça résout le problème. Et la partie développement, comme je le dis, est tout à fait...
Vous caricaturez un petit peu, des armées qui ne sont pas aussi efficaces que ce qu'on pourrait l'espérer, Thierry Vercoulon. Ils ont tous, ces pays, des armées.
L'armée malienne a été une armée en crise et en débandade à partir du putsch du Comité Sanogo. Le Burkina Faso a une armée qui est aussi extrêmement faible. Le Niger, on est en train de voir en effet que l'armée nigériane, elle aussi a des très très grandes faiblesses. Donc il n'y en avait que deux armées opérationnelles, c'est l'armée mauritanienne et l'armée tchadienne. Et l'armée tchadienne n'est pas une armée, c'est une troupe de guerriers communautarisés. Donc ce n'est pas une armée. Je tiens à le dire clairement ici, parce qu'on parle un peu trop de l'armée malienne à Paris, alors que ce sont en fait des généraux qui emmènent leur communauté, l'armée tchadienne, qui forme l'armée en
emmenant leur communauté. On loue souvent l'efficacité vue de Paris.
Oui, enfin l'efficacité, il faut les voir sur le terrain.
Serge Mikhailov.
Alors, tout à l'heure, Thierry parlait de la stratégie de l'Union africaine. Je ne sais pas trop s'il y a une stratégie de l'Union africaine face à ces questions-là. Mais quand on voit la situation sur le terrain, il y a une pléthore de stratégies. Comme vous avez une quarantaine de bailleurs de fonds sur le Sahel actuellement, vous avez au moins une trentaine de stratégies. Et ces stratégies, je dirais, certaines d'entre elles sont plutôt contradictoires. Donc, l'un des gros problèmes qui se pose à l'aide dans ce type de situation, c'est justement assurer une coordination que les bailleurs eux-mêmes ont les plus grandes difficultés à assumer. Alors, ce manque de coordination fait que vous avez d'abord des domaines qui sont complètement oubliés par l'aide, et vous avez d'autres domaines qui sont surfinancés, dans lesquels vous avez une compétition qui n'est pas toujours très saine entre les différents acteurs de l'aide. Donc, vous avez une des premières raisons des difficultés de l'aide dans ce genre de situation, c'est que les pays eux-mêmes sont incapables de coordonner l'action des différents acteurs de l'aide. Et tout ça conduit à une grande pagaille qu'on a vu arriver en Afghanistan à partir des années 2005-2006 et qu'on a vu arriver au Sahel à partir de l'année 2014-2015, si vous voulez. Et ça vient tout simplement de ce que, et là on touche une des raisons, je dirais, des difficultés de ces pays, c'est que ces pays n'ont pas d'armée, mais l'armée ce n'est que l'aboutissement, que l'extrémité dans toute société que l'extrémité, que l'aboutissement d'une, je dirais, d'un système régalien et d'un système étatique qui fonctionne. Bon. Alors, vous avez des institutions dans ces pays qui, globalement, dysfonctionnent. Vous n'avez pas d'efficacité au niveau des différents ministères. Et de même que vous n'avez pas d'efficacité au niveau du ministère de l'Agriculture ou du ministère des Travaux publics, eh bien, vous avez une armée qui est à l'image de cette inefficacité globale. Donc, alors, c'est assez grave, cette situation-là, parce que on ne peut pas s'occuper de simplement entraîner l'armée, je dis entraîner entre guillemets, parce qu'on peut entraîner...
Qui est la solution le plus souvent préconisée, en fait.
Préconisée, mais si vous entraînez des soldats alors que le problème de l'armée, c'est la corruption, vous passez complètement à côté du problème. Vous leur apprenez à tirer correctement, vous leur apprenez à se déplacer, mais s'ils n'ont pas confiance dans leurs officiers, eh bien, vous résolvez absolument pas le problème. C'est ça qui s'est passé au Sahel. C'est que, en particulier l'Union européenne, a financé la formation des soldats au Mali, et former des soldats depuis maintenant 6 ou 7 ans. Bon. Alors pourquoi l'armée malienne est toujours aussi faible? Tout simplement parce que son encadrement est très faible, il y a une corruption éhontée au niveau de toute l'armée malienne, et que c'est pas en formant les soldats qu'on va régler les problèmes de corruption, les problèmes de confiance de la troupe dans ses chefs.
En réalité, le vrai problème qu'on avait au Mali, c'est pas tant celui des djihadistes qui fondaient, soi-disant, sur Bamako pour prendre la capitale, chose qu'ils n'avaient peut-être, en tout cas pas les moyens, mais peut-être même pas l'intention de faire, c'était en réalité la faillite de l'État malien. Mais alors, qu'est-ce qu'on a fait, effectivement, Thierry Vircoulon, pour aider à la reconstruction, voire à la construction de cet État malien? Si on fait le bilan, là, depuis l'intervention française au Mali, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'a fait la diplomatie française? Et qu'est-ce qu'on a raté?
Ce qu'on a fait, c'est-à-dire ce que les Européens ont fait, ça a été à la fois de vouloir soutenir en effet l'État malien, les administrations maliennes, de reconstruire l'armée comme on l'avait dit, et d'essayer évidemment de faire en sorte que l'accord d'Alger soit appliqué. Un des problèmes clés aussi dans cette affaire, c'est que l'accord d'Alger n'est pas appliqué. Il faut aussi le souligner. Mais pour revenir à ce qui vient d'être dit, je pense que c'est en effet un des éléments fondamentaux du problème, c'est que les armées ne sont que le miroir de l'État. Or, on sait très bien que l'État malien et d'autres d'ailleurs, sont des États qui sont dont le principal problème c'est la corruption. Et il est assez surprenant que à Paris, malgré 60 ans ou plus de coopération militaire, on n'ait jamais voulu se rendre compte que les armées qu'on formait étaient profondément corrompues. Évidemment, on le sait, mais disons qu'on n'a jamais voulu en tirer les conclusions et les conséquences.
Ça aurait été quoi les conclusions à tirer?
C'est-à-dire qu'il ne fallait probablement pas miser sur ces armées pour lutter contre les djihadistes.
Donc cesser la collaboration avec eux?
Avec eux.
Avec ces armées.
Oui,
et donc partir en réalité, parce que si vous...
Non, pas partir, mais en tout cas inventer. Premièrement, faire une première chose dont je parle dans un papier que j'ai fait là sur les États faillis, qui aurait été de se demander qui sont ceux qui assurent vraiment la sécurité des populations dans ces pays. Est-ce que c'est en effet la police? Est-ce que c'est l'armée? Ou est-ce que ce sont d'autres organisations et d'autres structures sociales? Ça aurait été la première chose qu'il aurait fallu faire. Et la deuxième chose, ça aurait été de changer notre coopération militaire, notre coopération de défense avec ces pays, puisque, et c'est pour ça qu'il y a aussi, je pense, une très grande maintenant animosité en Afrique, dans cette partie de l'Afrique à l'égard de la France, c'est que nous avons un long passé de coopération militaire avec ces régimes, et le résultat, comme je pense dans d'autres domaines du développement, c'est 60 ans d'échec. Aujourd'hui, qui éclate aujourd'hui aux yeux de tout le monde.
Serge Mikhaïlov, si on revient à la question du développement, en tout cas si on essaye d'articuler cette question militaire à la question du développement, quand on regarde le Mali, c'est un pays qui a reçu énormément d'aide militaire, d'aide au développement. C'est à peu près chaque année, quand on regarde les chiffres de l'OCDE,
un milliard de dollars.
Ce qui est énorme, ce qui est des niveaux historiques. Il y a plusieurs questions. C'est un, qu'est-ce qu'on reçoit en échange? Qu'est-ce qu'on obtient en échange? Est-ce qu'il y a des engagements politiques qui sont pris du côté des responsables maliens contre cette aide
au développement? Des engagements politiques vraiment très sérieux de pris au sujet de cette aide, non, je ne pense pas. Il y avait une habitude...
Est-ce que ça manque pas?
Oui, bien sûr, on va revenir là-dessus. Mais il y avait une habitude au niveau des bailleurs de fonds, historiquement, de financer le Mali à des niveaux qui sont quand même relativement élevés, de l'ordre du milliard de dollars. Bon. Quand on voit la situation du Mali en 2012, qui est un État quand même en faillite, bon, complète, eh bien, on peut se demander effectivement si doubler l'aide au Mali ou tripler l'aide au Mali, sans changer radicalement ses points d'application et la manière dont on la gère, c'est la bonne solution. Or, qu'est-ce qu'on a fait ? On a doublé, on a triplé les montants, sans réfléchir non plus nécessairement au point d'application. Alors là, je vais vous donner quand même quelques chiffres qui sont assez ahurissants. Vous avez eu en 2014-2015, vous avez eu une réunion à Bruxelles, ensuite à Paris, des donateurs du Mali. C'est une réunion classique dans ce domaine. Bon. Et tout le monde s'est gargarisé. Il y a eu 3,4 milliards d'euros de promis au Mali sur les 4 ans à venir, ce qui est beaucoup d'argent. Bon. Et puis, un certain nombre de chercheurs ont fait l'analyse des points d'application de ces 3,4 milliards. Ils sont aperçus que ce qui allait à l'agriculture, ça représentait à peu près 3,5% de ces 3,4 milliards.
C'est très peu.
C'est très peu. Bon. Et le reste allait à ce qui plaisait, je dirais, aux différents donateurs.
Donc c'est-à-dire
les différents donateurs se sont fait plaisir en finançant des petites... une demande malienne pour financer les aéroports. Bon, pourquoi pas. Une demande malienne pour financer... Alors des écoles. Mais les écoles, le problème, c'est pas les constructions qui sont importantes. C'est l'encadrement des maîtres et c'est le curriculum. Donc vous voyez, il y a eu énormément d'erreurs de fait au niveau des points d'application de l'aide au cours du temps. Et quand on sait que 70% de la population malienne vit de l'agriculture, bon, il fallait évidemment mettre au moins 40-50% de ces 3,4 milliards dans l'agriculture. Ça n'a pas été fait parce que personne au niveau de l'Assemblée des donateurs n'a vraiment fait le calcul. Ce sont des chercheurs comme moi ou les gens de Sciences Po qui sont amusés à faire le pointage. Ils se disent, mais ça va pas du tout. Bon. Donc, il faut, alors, derrière tout cela.
Mais comment on peut en arriver là, en fait? Vous nous dites qu'il faudrait arriver à 50%, on est à 3,5%. Comment on peut en arriver à une telle situation?
Non, mais on s'est pris la tête quand on a pris ce truc, quand on a regardé ces chiffres-là. Et ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai fait le même calcul pour l'Afghanistan entre 2002 et 2007. C'est-à-dire la seule période où l'aide internationale pouvait travailler à peu près correctement, sans risque dramatique de sécurité. Et je suis arrivé au même montant. C'est-à-dire que l'aide internationale à l'Afghanistan, pendant la période où on pouvait travailler sur des projets de développement agricole, eh bien, ça a été également 3,5%.
Thierry Vircoulon, réaction là-dessus, parce que c'est vrai que là, dans les propos de Serge Mikhaïlov, on comprend qu'il y a quelque chose d'absolument fou. C'est-à-dire, on marche sur la tête. Moi, je regardais hier, par exemple, l'Alliance Sahel, qui est un programme de développement qui est extrêmement important, qui a été lancé par la France, l'Allemagne, l'Union européenne, avec le soutien de la Banque mondiale. Je vous donnerai la parole là-dessus, avec le soutien de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, programme des Nations unies, etc., etc. Quand on regarde, j'y suis allé hier pour voir un peu ce qu'il y avait, on a l'impression que c'est extrêmement complet. Il y en a dans l'éducation, dans l'agriculture, dans la décentralisation. Il y a plein de choses extrêmement intéressantes. Je vais vous en donner quelques-uns parce que je les ai notées. Projet actif, par exemple, on est là au Mali, un projet d'éducation, formation de jeunes maliens qui est fait par une vingtaine de volontaires. Et un autre projet qui s'appelle REST, destiné lui à améliorer la sécurité alimentaire et l'accès à la santé au Tchad. Ça coûte 27 millions d'euros, ça. PRAPS, un projet de soutien des activités pastorales dans la région sahélienne. On se dit que tout ça, c'est formidable, mais en fait, non.
C'est-à-dire qu'il y a en effet une profusion de projets.
Qui ne sont pas pensés.
Mais... Alors, premièrement, comme vous le disiez, des fois, ils sont à côté des priorités les plus importantes. Mais surtout, quand on va sur le terrain, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, parce que je travaille, je passe beaucoup de temps sur le terrain en Afrique, c'est de constater toujours le décalage qu'il y a entre les documents de projet et ce qui se passe sur le terrain. Et donc, la question qu'il faut se poser, en fait, c'est quand on met 100 euros d'aide sur un projet, combien arrive sur le terrain ? Tombé arrive sur le terrain. Et ça, je pense que c'est une question qui est importante pour comprendre pourquoi l'aide dysfonctionne.
Mais on a une idée de ça, ce niveau d'évaporation.
Ça dépend des projets.
Du nombre d'intermédiaires qu'il y a dans le projet, puisque tous les projets sont des chaînes d'intermédiaires la plupart du temps. Et après, alors premièrement, combien de ces 100 euros arrivent sur le terrain? Et deuxièmement, est-ce que cet argent qui arrive sur le terrain permet d'atteindre l'objectif ou d'améliorer les choses? Mais moi, j'irais plus loin que ce problème problème de décalage entre les priorités, les projets et puis leur mise en œuvre, qui est quelque chose d'assez classique qu'on connaît bien dans le domaine de l'aide au développement et qui a été bien analysé, c'est que je pense que le problème fondamental au Sahel, c'est que du 20e siècle au 21e siècle, donc quand il y a eu la crise au Mali, etc., le logiciel de l'aide civile et militaire qu'on a appliqué pour gérer la crise malienne n'avait pas changé, en fait. Et a été toujours le logiciel du 20e siècle qu'on continue à appliquer au 21e siècle, et c'est pour ça que ça ne marche pas.
Serge Mikaïla, vous voulez réagir?
Alors, deux mots sur le logiciel, justement. C'est que les donateurs ont eu l'habitude de travailler dans des pays qui sont relativement bien gérés. Et les instructions qu'ils recevaient de leur mandant politique, c'était de faire le meilleur usage de leurs ressources. Et le meilleur usage de leurs ressources, on le fait dans les pays qui sont bien gérés. Mais aujourd'hui, les pays qui ont été bien gérés pendant 20 ou 30 ans, ils sont sortis du domaine de l'aide pour la plupart d'entre eux. Et il reste des pays qui ont souvent été très très mal gérés. Et là, les donateurs sont assez désarmés. Et ils se rendent compte que leur logiciel ne marche plus. Donc ils essaient d'inventer de nouvelles approches. Ils tâtonnent. Et ils ont beaucoup de difficultés, parce que dans les méthodes qui sont appliquées pour justement travailler dans des pays mal gérés, il y en a qui sont extrêmement, extrêmement nocives, extrêmement dangereuses.
Lesquelles, par exemple?
Un petit peu là-dedans. De créer, par exemple, des unités de projet que vous staffez avec des nationaux que vous choisissez vous-même. Vous leur donnez des moyens de travail, vous leur donnez des objectifs, des responsabilités, et le projet va marcher. Mais en faisant ça, comme vous allez payer les gens à des niveaux de salaire qui s'alignent très vite sur les salaires des Nations Unies, vous allez aspirer toute la capacité qui existe dans les ministères et dans les différents organismes d'État, et vous allez aspirer toute la capacité qui va arriver dans ces structures qui, au bout de 3 ans, au bout de 4 ans, quand le projet est terminé, vont être dissous.
Et je comprends, mais alors si on le fait pas, si on les fait pas participer, on va dire, c'est des projets qui sont complètement verticaux, on fait pas participer la population locale, voilà. Alors, vous exposez à ces critiques-là aussi.
Disons que, alors, l'une des raisons pour lesquelles la France, en fait, c'est l'AFD, a lancé l'Alliance pour le Sahel, c'est l'idée, c'est justement de limiter. D'abord, les projets sur lesquels il y aura une évaporation trop importante. D'autre part, limiter les zones, les secteurs qui ne sont pas du tout traités par l'aide internationale. Et en fin de compte, éviter les doublons. Alors, ce n'est pas l'Alliance pour le Sahel, ce n'est pas une nouvelle institution qui a de l'argent. C'est simplement une toute petite institution avec 2-3 personnes qui engage un dialogue permanent avec les différents bailleurs et qui essaie de les convaincre que non, ce que vous faites là, c'est pas exactement ce qu'il faudrait faire, faudrait le corriger, et qui travaille par, je dirais, persuasion.
C'est quand même une grosse institution, 700 non. projets, 9 milliards de dollars.
Non, mais ça, c'est, on a mis sous cette enveloppe-là les projets qui sont financés par la Banque africaine, par la Banque mondiale, par l'Union européenne, etc. On a tout regroupé. Mais je veux dire, il n'y a pas d'institution Alliance pour le Sahel. C'est juste un regroupement.
Je l'apprends.
Et ce regroupement, si vous voulez, il essaye de gérer la pagaille dans l'aide internationale.
Mais il y a un défaut de coordination.
Il essaie de répondre aux défauts de coordination.
Oui, c'était l'Alliance. Le but, c'est en effet d'améliorer la coordination des bailleurs et de réduire les coûts de transaction, en fait, entre eux. Ce qu'on se rend compte, c'est que, justement, faire une vraie coordination des bailleurs, c'est extrêmement difficile, c'est aussi extrêmement politique. Et là, on revient à la question fondamentale du départ, c'est la problématique entre la politique et l'aide. Et moi, je pense pas qu'il y ait une grande dichotomie entre l'aide et la politique. Je pense au contraire que la politique d'aide au développement est très justement politique, voire politicienne, et que ces questions justement de coordination entre bailleurs le montrent immédiatement dès qu'on commence à essayer de s'interroger pourquoi tel bailleur ne veut pas se coordonner avec tel autre, on tombe très vite sur des motifs politiques.
C'est-à-dire, vous avez un exemple peut-être pour nous le faire comprendre?
C'est-à-dire que, par exemple, il y a des... Enfin, je pense que M. Mikaïla est probablement mieux placé que moi.
On lui donnera la parole aussi.
Mais il y a, par exemple, une certaine réticence allemande aux positions françaises sur l'Afrique. Et donc, même si on affiche entre Berlin et Paris un grand partenariat et le fait qu'on travaille ensemble sur l'Afrique, en fait, il y a du côté de Berlin une vision de l'Afrique qui n'est pas la même que celle et des régimes africains qui n'est pas la même que celle de Paris. Et on peut même pousser un peu plus loin en disant que les intérêts probablement ne sont pas fondamentalement les mêmes. On l'a vu avec le Gabon, avec la crise électorale au Gabon, quand le chef de la mission d'observation électorale de l'Union européenne, qui était un député allemand, face à ce qui se passait, a fini par dire peu après que c'était Paris qui bloquait l'application des résolutions du Parlement européen sur le Gabon.
Serge Mikhaïlov.
Alors, si vous voulez, on parlait tout à l'heure des 30 stratégies qui existent sur le Sahel. C'est que chaque bailleur important définit sa propre stratégie dans, en général, son siège social. Bon. Ensuite, il y a une concertation avec les autorités locales qui, en général, endossent, je dirais, n'ont pas de réserve vis-à-vis de ce que propose le bailleur de fonds. Alors, je parle de la Banque mondiale ou vous parliez de la Banque africaine de développement. Chacune a son approche. Elle veut faire telle et telle chose. Bon. Donc, elle va se vanter de faire la coordination. Mais la coordination, c'est on explique ce qu'on fait. Mais c'est pas véritablement une coordination qui permet de définir ensemble les priorités et travailler. Alors, on sait comment on peut résoudre ces questions-là. On met en place, il faut mettre en place ce qu'on appelle des trust funds multi-bailleurs sur un pays. Moi, j'avais proposé ça pour le Mali, c'était en 2013. Je me suis fait envoyer sur les roses. Pourquoi? Parce que chaque bailleur, chaque pays qui est derrière hein, les bailleurs bilatéraux a envie de faire certaines choses et n'a pas envie de se faire dicter sa politique, sa stratégie sur place. Alors, l'autre point, c'est que face à un État qui a des grandes difficultés en termes d'organisation interne, en termes de, je dirais, sur le plan institutionnel, il est évident qu'il faudrait faire un appui institutionnel. Bon. Et c'est là que cet appui institutionnel, on touche très vite le domaine du politique. Pourquoi il y a des dysfonctions dans les institutions maliennes? Tout simplement parce que vous avez un certain nombre d'institutions dans lesquelles les différents groupes ethniques peuvent être en concurrence. Vous avez des institutions dans lesquelles qui ont été données à tel parti politique ou à tel groupe ethnique. Bon. Donc il faut très vite toucher les sujets qui sont extrêmement politiques dès qu'on veut aborder les problématiques institutionnelles qui sont au cœur des défaillances de ces pays-là. De même, si vous voulez, au niveau de l'armée malienne, bon, le patronat, l'un des responsables du patronat malien a fait une déclaration récemment en parlant des 15 généraux qui étaient les 15 voleurs. Ouais, on voit bien qu'il y a des problèmes, si vous voulez, qui sont des problèmes de corruption, des problèmes de dysfonctionnement, des problèmes de désignation. De responsables qui ne sont pas à leur place parce qu'ils n'ont pas les compétences pour cela, qui renvoient directement à la structure de pouvoir. Donc c'est tout de suite très difficile pour un bailleur de fonds d'aborder ces sujets-là. Et moi je pense que sur le Mali, continuer une aide à la fois en équipement, en formation, et puis une aide militaire telle qu'on la pratique actuellement, sans avoir une discussion au fond avec, je dirais, les dirigeants maliens au niveau le plus élevé. Et d'abord, leur faire comprendre qu'ils sont dans une impasse eux-mêmes. C'est pas seulement l'armée française qui est dans une impasse. Ils sont eux-mêmes dans une impasse. Et que c'est faute de reconstruire un embryon d'État malien qui est l'embryon régalien de l'État malien, c'est-à-dire une gendarmerie qui fonctionne, une justice qui fonctionne, une armée qui fonctionne, eh bien, ils auront la responsabilité, je dirais, d'un échec gigantesque et d'une arrivée au pouvoir ou la contrôle de leur pays, total de leur pays, par des groupes djihadistes.
Thierry Vircoulon.
Oui, c'est vrai, sauf que je pense que maintenant, on est un peu derrière, au-delà de cette séquence, puisque maintenant, on est un peu dans la séquence de sauvetage ou d'éviter le naufrage complet en ce qui concerne le Mali et le Burkina Faso aussi, et que ça fasse tache d'huile sur le Niger et d'autres pays. Parce que reconstruire, comme vous le disiez, des institutions, ça prend des années.
Il aurait fallu faire ça plus tôt. Hein.
Voilà, il aurait fallu faire ça beaucoup plus tôt, et que la prise de conscience de la mauvaise gestion, mais là aussi, je veux dire, la mauvaise gestion de l'État malien, on ne l'a pas découvert avec la crise.
Non.
Il faut quand même le dire, et de l'État malien et d'autres États en Afrique subsaharienne. Et vous parliez tout à l'heure du Rwanda. Le Rwanda est la preuve que l'aide, ça marche, à partir du moment où elle est en effet utilisée pour ce à quoi elle est prévue. Et ce qui s'est passé avec le régime de Kagame, qui est un régime de développement autoritaire, voire dictatorial, c'est que en effet, les fonds alloués pour les actions de développement ont été alloués pour les actions de développement. On a contrôlé le régime a contrôlé que ces fonds allaient là où ils devaient aller, a sanctionné la corruption et du coup a nettoyé le régime de corruption et du coup l'aide, voilà, ça a marché.
Donc d'une certaine manière, s'est reconstruit. Dans l'efficacité, dans la recette de l'efficacité du succès rwandais, il y a aussi l'autoritarisme du régime.
Bien sûr, tout à fait. C'est un des rares pays d'Afrique, et c'est pour ça qu'il est cité en exemple partout comme étant ayant réussi, etc. C'est un des rares pays d'Afrique où la reconstruction est une réalité, où le niveau de vie s'est élevé. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu 20 ans d'aide anglo-saxonne massive après le génocide, et parce que cette aide a été vraiment utilisée et non pas détournée, comme c'est très souvent le cas.
Je vais vous faire une confidence.
Et puis ensuite, on accueillera Estelle Brad par téléphone.
J'étais au forum sur la paix et la sécurité en Afrique il y a quelques années à Dakar. Il y avait sur l'estrade le président malien et le président Kagame, le président du Rwanda, et qui ont chacun fait un exposé, qui valait ce qui valait. Mais j'étais à côté d'un responsable africain que je ne connaissais pas, qui m'a donné un coup de coude. Il m'a dit, mais le problème du Mali, c'est simple, vous échangez les présidents.
Et c'est ça ?
C'est ça.
C'est ça le problème ?
C'est ça le problème. Enfin, il faut quand même, oui, c'est ça le problème, mais il faut pas simplement un homme, il faut que cet homme arrive à mobiliser, je dirais, toutes les forces vives du pays et à remettre de l'ordre dans ce qui sont des écuries d'Ogia, c'est quand même bien le dire.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
On va parler de la Banque africaine de développement, qui est la principale institution financière chargée du développement du continent. En novembre dernier, l'institution a annoncé une augmentation de grande ampleur, la plus importante de son histoire. Écoutez son président.
En fin de compte, ce qui est important dans cette réunion, c'est ce que les chefs d'État ont déclaré. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que la BAD est au cœur de l'accélération du développement du continent africain. Mon travail consiste à faire en sorte que la banque, ses actionnaires et toutes nos ressources soient investies dans la vision que les dirigeants africains ont pour le continent, l'Afrique que nous souhaitons. Je suis persuadé qu'avec leur soutien, nous y parviendrons.
Voilà le Nigérian Akin Wumi Adesina, donc le président de la Banque africaine de développement, qui a annoncé en novembre dernier le passage de capital de la banque de 93 à 208 milliards sur 10 ans. C'est un jour de joie pour l'Afrique, a-t-il dit. Qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Cette Banque africaine de développement pourra-t-elle donner un coup de fouet au développement du continent ? Bonjour Estelle Brack.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes économiste spécialiste des questions bancaires à l'IREMO. Vous êtes d'accord pour dire que cette augmentation avait quelque chose d'historique, que c'est un jour de joie pour l'Afrique, ou il faut un tout petit peu nuancer les ardeurs de ce président de la Banque africaine de développement ?
Je dirais que c'est une bonne nouvelle, mais évidemment, il faut tempérer un peu les ardeurs qui voudraient penser que juste investir de l'argent ou disposer de fonds et investir de l'argent ou disposer d'argent suffirait pour le développement. Mmh. Et comme vous l'avez dit précédemment, l'important est également de savoir où va l'argent et est-ce qu'il est utilisé au bénéfice des populations et de l'économie en général.
Alors on va y venir justement, mais avant, qui va mettre la main à la poche ? Qui paye cette recapitalisation historique ?
La Banque africaine.
Les actionnaires.
Estelle Brack, ce que dit le président de la Banque africaine de développement qui est arrivé en 2015, c'est que lui, il considère que la priorité, c'est de mettre le paquet sur l'industrialisation et mettre le paquet sur le soutien au secteur privé. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est absolument la stratégie à suivre ?
Je suis d'accord, oui, avec cette idée qu'il faut promouvoir l'émergence et la consolidation d'un secteur privé qui est déjà existant. Parce que ce secteur privé, c'est celui qui implique les acteurs locaux. Le secteur économique en Afrique, il est majoritairement, enfin même à 90%, composé de PME. Et des PME qui sont souvent unipersonnelles. Mmh. Donc promouvoir le secteur économique, c'est aider les personnes, les individus, à développer leur activité économique et donc un revenu à l'échelle individuelle. Donc à mon sens, oui, c'est très important.
Et alors pourquoi c'est pas le cas ? Aujourd'hui, c'est 32% des investissements seulement qui vont au privé. Estelle Brack, puisqu'on sait que c'est ça qu'il faut soutenir, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ?
Alors on le fait également, mais alors
l'essentiel va aux États.
elle va aux États, elle va également aux grands projets d'infrastructure. Donc la Banque africaine va à plusieurs leviers d'intervention, comme vous le savez, une partie de financement majoritairement. Et il est important aussi à l'échelle du continent de pouvoir investir dans des infrastructures et d'accompagner les infrastructures. Dans les infrastructures, ce sont les ponts, ce sont les routes, ce sont les réseaux de communication, le solaire. C'est le 19% justement des. C'est un des cinq priorités de la Banque africaine, c'est éclairer l'Afrique.
Oui, donc il y a besoin aussi, vous avez raison, de ces infrastructures. Mais alors, c'est quoi le bon équilibre entre les deux, Estelle Brack?
C'est une bonne question.
C'est le bon des pays.
Le bon équilibre entre les deux, c'est celui qui répond correctement aux besoins de chacun des pays. Et donc, c'est à la fois et aussi accompagner justement les États à lever des fonds, à se financer auprès des marchés locaux. Comme le promeut une initiative de la Banque africaine de promotion des marchés financiers locaux pour non plus se financer exclusivement en prêt auprès des banques et donc de détourner par ce biais une partie du financement dont pourrait bénéficier le secteur privé, et d'autre part éviter ou réduire l'endettement des États auprès des marchés internationaux. Donc ça aussi, c'est une initiative qui est macro à l'échelle de l'Afrique, mais qui est indispensable et qui est plutôt une initiative qui a une visée à long-termisme.
Je voudrais faire réagir nos deux invités en plateau, Serge Mikhaïlov et Thierry Vircoulon. Vous vouliez réagir
La balance, si vous voulez, des financements au niveau d'une institution comme la BLA, il faut que ça dépend manifestement des pays. Donc, dans chaque pays, la BLA doit définir une stratégie, la discuter avec les responsables locaux et se mettre d'accord sur des volumes correspondants. Maintenant, parfois, les responsables locaux n'ont pas d'idée très précise sur la balance qui est souhaitable. Et ce type de consultation débouche sur des erreurs monstrueuses.
Thierry Vircoulon.
Oui, là je vais encore réintroduire de la politique. L'ABAD est vraiment la banque des États africains, dans le sens où elle est très sensible aux demandes des gouvernants africains qui veulent financer tel ou tel projet pour telle ou telle raison. Et donc très souvent, elle finance des projets beaucoup plus pour des motifs politiques que pour des motifs qui tiennent la route sur le plan du dossier, si je puis dire. Et on voit, alors bien sûr, les infrastructures, c'est important, etc. Mais il y a souvent des arrière-pensées politiques qui, dans la décision au conseil d'administration, prennent le pas largement sur les autres critères.
Vous pensez à quelque chose ?
Je pense à beaucoup d'autres projets, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais,
peut-être notable, Serge Mikhaïlov ?
Kandadji, au Niger, je pense, qui est un projet dont on parle depuis 40 ans, mais finalement il se fait.
Donc ça veut dire, Estelle Brack, que peut-être il faudrait faire évoluer le fonctionnement de cette Banque africaine de développement et la réformer. Vous me direz, ce n'est pas la seule institution mondiale, enfin financière, transnationale qu'il faudrait réformer. Est-ce qu'on en a conscience du côté de la BAD et est-ce qu'on pourrait imaginer effectivement une réforme dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, Estelle Brack?
Alors, je ne saurais pas m'engager sur ce que pense la BAD. Je travaille avec des représentants de la BAD qui, à mon sens, ont une volonté de bien faire. Je pense que au-delà de toute réforme, et c'est le même sujet comme vous l'avez dit pour la Banque mondiale, pour le FMI, le sujet et la difficulté, c'est la taille de l'institution qui doit intervenir, comme on l'a dit, sur 54 pays à l'échelle du continent avec 80 membres. Donc dont un tiers des membres de là-bas ne sont pas des pays africains. Et c'est cette machine, en fait, ce système énorme qui est inhérent, qui est forcément difficile à mettre en œuvre. Alors après, moi, je vois des initiatives qui sont orientées très micro, comme l'initiative sur l'inclusion financière, avec des fonds fiduciaires qui sont cofinancés par des organisations comme la Bill et Melinda Gates Foundation ou ce genre de choses. Donc je vois concrètement un souci de coller à des questions terrain. Mais effectivement, parce que c'est une institution à grande échelle, je pense que la structure même, enfin la taille même de l'institution, lui donne des limites.
Ouais, peut-être une trop grosse institution comme les grosses institutions, c'est toujours très compliqué à réformer. Thierry Vircoulan.
Oui, je vous donnais, vous vouliez un exemple de projet politique. L'ABAD est encore dans le projet INGA, pour financer le projet INGA de grands barrages au Congo, alors que la Banque mondiale s'est retirée de ce projet à cause des problèmes de gouvernance insurmontables du côté congolais.
Serge Mikhaïlov, on arrive presque au terme de cette émission, peut-être, en guise de conclusion.
Non, l'ABAD, il y a d'excellents professionnels au niveau de la Banque africaine de développement, mais lorsque ça dérape, en général, ça vient d'un mauvais management au niveau de la présidence. Donc il y a eu des phases de mauvaise gestion de l'ABAD, historiquement. Il y a eu des phases de bonne gestion qui ont permis de réformer et de remettre sur pied l'ABAD. Mais on n'est pas aujourd'hui dans une phase extraordinaire de gestion parfaitement acceptable.
Oui, c'est un euphémisme. Donc on comprend que finalement ce n'est pas forcément la bonne entité, la bonne institution pour organiser le développement du continent.
Elle est très importante en même temps.
Indispensable.
C'est très important, politiquement.
Pourquoi ?
Disons que c'est une institution africaine, c'est quand même la seule de ce type. Alors vous avez des institutions régionales africaines qui sont également intéressantes, vous avez la BOAD, la Banque Ouest-Africaine de Développement. Donc vous avez, je crois qu'il faut arriver à faire vivre ces institutions africaines, mais vous avez des dérapages qui sont parfois inacceptables. Je rappelle que la BAD a déménagé de Côte d'Ivoire pour partir en Tunisie il y a quelques années, avant de revenir maintenant en Côte d'Ivoire, simplement parce que la gouvernance de l'époque de Kibok Bagbo n'était pas acceptable.
Thierry Vircoulan, 30 secondes.
Un des problèmes de toutes ces organisations régionales en Afrique, c'est que ce sont des associations d'États, et elles reflètent aussi les dysfonctionnements des États qui sont leurs membres et qui sont leurs composantes. Et donc, comme on disait tout à l'heure, l'armée reflète les dysfonctionnements de l'État en règle générale, les organisations régionales africaines reflètent les dysfonctionnements des États africains.
Nous avons choisi de risquer de nouvelles voies pour être plus heureux. Nous avons choisi de mettre en place de nouvelles techniques. Nous avons choisi de rechercher des formes d'organisation mieux adaptées à notre civilisation, rejetant de manière abrupte et définitive toutes sortes de dictats extérieurs pour créer ainsi les conditions de dignité à la hauteur de nos ambitions. Refuser l'état de survie, déterrer les pressions, libérer nos campagnes d'immobilisme moyen enjeu ou d'une répression, démocratiser notre société, ouvrir les esprits sur un univers de responsabilité collective pour oser inventer l'avenir.
Merci beaucoup Estelle Brack d'avoir été avec nous ce matin par téléphone. Je rappelle que vous avez écrit « Les mutations du système bancaire et financier africain ». Ça peut permettre pour les auditeurs qui le souhaitent d'aller plus loin dans les questions qu'on abordait. Un grand merci également à deux invités qui étaient avec nous ce matin, Serge Mikhaïlov, Thierry Vircoulon. On mettra évidemment les différentes références de vos livres, et ils sont nombreux, sur la page de Culture Monde. Un grand merci d'avoir été avec nous. C'est avec le rappeur sénégalais Didier Awadi qu'on se quitte. On se retrouvera demain pour une nouvelle émission consacrée à la paix, faire taire les armes. Ça sera pour demain, on prendra la direction de l'Ukraine. Mais pour l'heure, 11h53, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier, son Tour du Monde des Idées.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
L'épidémie de coronavirus ne sera probablement pas le Tchernobyl du Parti communiste chinois. Son pouvoir sur la Chine d'aujourd'hui est certainement moins chancelant que ne l'était celui du Parti communiste de l'URSS en 1986. Il n'en reste pas moins que l'épidémie constitue un test personnel pour l'autorité de Xi Jinping, Brice.
Et oui, parce que quand on s'est construit un pouvoir d'une telle extension, on doit assumer la responsabilité de tout ce qui survient dans son pays. Tel est le piège que Xi Jinping a creusé lui-même en décidant de devenir aussi puissant que Mao Zedong lui-même. Les rivaux qu'il conserve au sein de la direction du Parti unique pensent qu'il est trop pressé et que la précipitation dont il fait preuve risque de ruiner les patients efforts de ses prédécesseurs. Deng Xiaoping, le dirigeant qui a remis la Chine sur la voie de la prospérité après les folies successives de l'époque maoïste, avait préconisé la prudence. Le mot d'ordre qu'il avait transmis à ses successeurs était le suivant. Cacher sa force, prendre son temps, ne pas réclamer précocement le leadership. Mais Xi estime qu'on a changé d'époque, que le temps de la retenue pour la Chine est dépassé, qu'elle doit désormais traduire sur la scène internationale la puissance économique que ses efforts lui ont acquises.
Mais alors Brice, quelle est au juste la vision du monde de Xi Jinping ?
Eh bien, Kevin Rudd, l'ancien Premier ministre d'Australie qui dirige à présent l'Institut Asia Society Policy, fait appel pour la décrypter à une théorie élaborée dans les années 40 par le psychologue Abraham Maslow, la pyramide des besoins. Selon cette théorie, l'individu ne commence à s'enquérir des moyens de satisfaire certains besoins que lorsque les tâches précédentes a déjà reçu satisfaction. Ainsi, par exemple, les besoins physiologiques tels que la faim, la soif et le sommeil passent avant les besoins de sécurité. La satisfaction de ceci, sécurité, conditionne le passage aux besoins d'appartenance et d'amour. Puis viennent les besoins d'estime et de reconnaissance et enfin, couronnement, le besoin d'accomplissement de soi. Eh bien, de la même façon, les objectifs du président chinois seraient construits de manière hiérarchique. La réalisation de chaque strate d'objectifs conditionne en celle de la suivante. À la base, vous avez la nécessité absolue de maintenir le pouvoir du Parti communiste sur le pays. Pas question de laisser se produire une transition vers le multipartisme ou la démocratie, car le capitalisme autoritaire encadré par le parti unique est considéré par Xi comme le moyen de rétablir la position internationale de la Chine. Le deuxième impératif, c'est la nécessité de préserver coûte que coûte l'unité d'une nation, qui est aussi un empire. L'autorité du parti unique est précisément jugée par Xi comme le moyen de prévenir la tendance historique de la Chine à l'éclatement et à la division. La troisième tâche, c'est d'alimenter la croissance chinoise, car la taille économique du pays, sa maîtrise des technologies de pointe en particulier, conditionne sa capacité à conserver ses positions sur le commerce international. Si l'augmentation continuelle des revenus connaissait une pause sérieuse en Chine, la légitimité du Parti communiste à diriger seul le pays serait atteinte. Et cette croissance conditionne aussi la concrétisation du quatrième objectif. Je cite là Kevin Rudd, « Incorporer la soutenabilité environnementale dans la matrix chinoise ». Le peuple chinois veut la croissance, condition de l'augmentation de son niveau de vie, mais il ne veut plus en payer le prix. L'air et l'eau sont affreusement pollués en Chine. Or, ces préoccupations écologiques entrent en contradiction avec d'autres projets de développement chinois, comme le fameux « une ceinture, une route ». La cinquième priorité, c'est le renforcement et la modernisation de l'armée chinoise. Xi Jinping s'en occupe personnellement. Il s'agit de transformer un outil de défense continentale en une force de projection vers des théâtres lointains. À concilier avec la sixième priorité, qui consiste à maintenir des relations apaisées avec les 14 États voisins de la Chine. La nouveauté, c'est que la Russie, hier encore considérée comme rivale, est à présent une alliée. Septième étage, repousser la présence américaine au-delà de la seconde chaîne d'îles, celle qui va du Japon aux Philippines en passant par l'île de Guam, et donc affaiblir autant que possible les liens de sécurité qui lient les États-Unis à la Corée du Sud et au Japon en particulier. Huitième et neuvième, sécuriser la périphérie continentale et faire de l'Eurasie tout entière un marché pour les produits et services chinois. Les routes de la soie sont conçues comme un moyen d'entraîner l'ensemble du continent jusqu'à l'Atlantique dans l'orbite chinoise. Enfin, Xi Jinping entend redessiner l'ordre international d'après-guerre dans un sens favorable aux vues et aux intérêts chinois. Et pour ce faire, la Chine maintient deux fers au feu, tout en renforçant son influence au sein des institutions existantes. Elle en construit d'autres alternatives.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr.